18h. Tout de suite, il est 5h, la Suisse s'éveille.
Les petits matins, Georges Pop.
Et c'est un nouveau jour qui se lève, mardi 24 avril 2012. Nous vous souhaitons une excellente journée. Tout à l'heure, le soleil sur le plateau va se lever aux alentours de 6h30. Il se couchera un peu avant 20h34. Ce matin, le ciel est encore très nuageux, accompagné de précipitations. Cet après-midi, quelques éclaircies vont se développer, mais des averses vont alterner avec de brefs moments d'ensoleillement. La limite pluie-neige se situera au niveau aux environs de 1000 mètres. En Valais, des éclaircies plus généreuses et des précipitations plus faibles. Température ce matin proche de 5 degrés, cet après-midi entre 10 et 12 degrés à basse altitude. L'actualité ce matin, Nicolas Sarkozy a entamé hier sa campagne du second tour de la présidentielle. Il s'est adressé, selon ses propres termes, à la France qui souffre. En meeting à Saint-Cyr-sur-Loire, près de la ville de Tours, une des rares villes où il a amélioré dimanche son score de 2007, le président candidat s'en est pris aux observateurs, coupables selon lui de n'avoir pas prévu une si forte participation au scrutin et même sa qualification pour le second tour. François Hollande, de son côté, s'est dit confiant, mais a-t-il ajouté, c'est aux Français de choisir maintenant leur destin. Pour le candidat socialiste, l'objectif est de faire revenir dans le giron de la gauche le vote des classes populaires déçues, parties dans les années 80 se réfugier dans les bras de l'extrême droite. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, va se rendre dimanche prochain en Birmanie pour y encourager le processus de démocratisation du régime. Durant sa visite de 3 jours, il va rencontrer notamment l'opposante Aung San Suu Kyi. Le département fédéral des affaires étrangères indique qu'il est en contact avec le groupe auprès duquel la ressortissante suisse enlevée le 15 avril dernier au Mali se trouve actuellement. Selon certaines informations, une offre de médiation humanitaire a été d'ores et déjà rejetée par ce groupe. Les écarts de revenus se creusent toujours en Suisse. C'est un rapport publié hier par l'Union syndicale suisse qui l'affirme. Pour y remédier, l'USS propose un salaire minimal et la fin des salaires avec bonus. L'USS demande aussi une hausse des fonds destinés à diminuer les primes maladie, première étape avant des primes dépendantes du revenu. À Berne, Christelle Domingeau.
La prime en fonction du revenu, c'est justement ce qui avait coulé la première initiative populaire pour une caisse maladie unique. Un rejet assez net par 71% des votants. 5 ans après, l'USS relance cette question, mais avec beaucoup de prudence et n'esquisse pas vraiment de modèle ni de calendrier pour y arriver. Elle reconnaît également qu'il ne faudrait pas reprendre le modèle de 2007, car elle est bien consciente que cette question est peu populaire et plutôt risquée. Surtout qu'on va bientôt entrer dans la phase politique pour la nouvelle initiative sur la caisse unique, dans laquelle les syndicats placent beaucoup d'espoir. Mais une prime plus dépendante du revenu s'inscrit dans la logique des revendications de l'USS, qui veut renforcer l'imposition en fonction de la capacité économique, réputée plus juste. Sont particulièrement visés les hauts revenus, fixés pour l'USS à plus de 130 000 francs, car leur étude montre aussi que les primes maladie pénalisent particulièrement les classes moyennes et basses.
Le groupe de luxe Richemont annonce qu'il va investir environ 100 millions de francs dans un projet de campus de la haute horlogerie qui sera inauguré à Genève en 2014. Ce nouvel espace sera érigé à Mérin. Il devrait accueillir plus de 900 collaborateurs d'ici à l'an 2020. Deux des favoris du prochain Tour de France, l'Australien Cadel Evans et le Britannique Bradley Wiggins, se retrouvent ce mardi à Lausanne au départ du Tour de Romandie. L'épreuve s'achèvera dimanche en Valais sur les hauteurs de Crans-Montana. Le FC Sion devra sauver sa place en Super League avec un nouvel entraîneur. Laurent Rousset a présenté sa démission hier à ses joueurs. Cette démission survient au lendemain d'une défaite 3-0 concédée à Tourbillon devant le FC Bâle. La dégradation de ses relations avec le président Christian Constantin est apparemment à la base de ce départ. On écoute Laurent Rousset.
Cette sérénité, elle vient aussi par une relation forte président-entraîneur. Et c'est vrai que depuis quelque temps, nos chemins se séparent avec Christian. Donc tout n'était pas réuni pour avoir cette sérénité.
Pourquoi ce rapport s'est disloqué ?
C'est vrai que depuis la défaite contre Lucerne, je sens bien que les choses, quelque chose a changé, quelque chose s'est cassé.
Vous lui en voulez un peu ?
Non, écoutez, j'en veux à personne. Après, moi je sais ce pourquoi j'étais venu ici. Je sais ce qui a été fait depuis 4 ans et quelques jours, puisque ici on comptait les jours. Aujourd'hui, le club a peur de voir les barrages, je dirais, avec inquiétude.
Une vache canadienne surnommée Smurf, l'équivalent anglais de Schtroumpf, a établi un nouveau record du monde de production de lait. Elle a fourni, figurez-vous, près de 217 tonnes de liquide nourricier en 15 ans, selon son propriétaire, selon s'il est responsable du livre Guinness des records. Il est 5h05, on va passer à Sport Matin.
Sport Matin avec le Tour de Romandie et Vaudoise Assurance.
Sport Matin avec, comme chaque mardi, hors cadre, la séquence d'Alain Cobel. Il s'entretient aujourd'hui avec le Valaisan Robert Dilbundi, champion olympique de poursuite individuelle. Vous vous en souvenez peut-être, c'était aux Jeux de Moscou en 1980.
32 ans plus tard, après avoir connu joie, peine et maladie, son sacre olympique n'a rien perdu de son éclat.
C'est une valeur olympique. Et si on parle toujours d'argent quand on est professionnel, c'est le rêve de tout gamin, les Jeux Olympiques. La valeur, elle se mesure à l'émotion. Moi, je pleurais, hein. Plaisir, de joie, je ne sais pas comment exprimer ça différemment. Quand j'étais sur ce podium, je regardais le public, je regardais les caméras de télévision, les photographes, et j'ai dit, aujourd'hui, c'est moi le meilleur au monde. Personne au monde peut me battre aujourd'hui. Et plus tard, le soir, au village olympique, j'ai réfléchi, mais j'avais la même impression quand j'étais la première fois champion valaisan des cadets. Je regardais les Alpes à gauche, à droite, et je me suis dit, j'étais le meilleur aujourd'hui, personne ne pouvait me battre. Alors, ça m'est resté, ça.
Cette médaille d'or olympique, Robert Dilbundi l'a gagnée sur une piste unique au monde, exceptionnelle encore aujourd'hui.
Pour moi, qui travaille déjà de plus de 30 ans dans ce milieu, c'est pas parce que j'ai gagné là sur cette piste, mais c'est la plus belle piste au monde, encore maintenant. Cette piste était très, très, très difficile à rouler, du fait que dès le départ, on arrive dans la courbe. Mais c'est un immense avantage qu'on ne perd pas d'énergie dans ces courbes. Un exemple classique, depuis le temps que je travaille à l'UCI, on a eu, ici à Aigle, on a eu la visite de certains top coureurs du monde. Armstrong, par exemple, son manager, il a dit « Ouais, on pourrait faire un record du monde ici à Aigle ». J'ai dit « Non, mais il ne faut pas le faire ici, il faut le faire à Moscou. Vous allez gagner de l'énergie. Hein. » Non, non, ça n'a aucune importance, qu'il me dit. Alors là, il m'a fait un peu souci, le papy Armstrong. Hein.
En 1987, Robert Dilbundi met un terme à sa carrière à l'âge de 28 ans. Et en 1999, après une reconversion professionnelle parfaitement réussie, il est frappé de plein fouet par la maladie. Il souffre d'une tumeur au cerveau. Après 2 trépanations, la maladie s'accroche. 3e récidive, beaucoup plus grave.
5 ans après, hein, fait le contrôle aux cheveux. Puis là, manque de peau. Récidive. On commence la chimio et c'est inopérable parce que c'était une tumeur de grade 4. Et un jour, la chimio n'a plus fait effet. Alors là, c'était très très dur. Ça veut dire que c'est fini. On a tout essayé. Et là, 3 jours après, je reçois un téléphone. Je peux faire partie d'un stage à ma propre responsabilité. C'est une étude. Pendant 3 ans et demi, je faisais partie de cette étude. Ça m'a permis de réduire l'œdème et finalement, j'ai pu l'opérer. C'était bon. Et puis depuis, je suis comme vous me voyez. Non. Alors moi, ce que j'ai appris de tout ça, quand je me lève le matin, je pense pas à la maladie. Je pense pas que je suis champion olympique. Je pense, aujourd'hui, c'est encore une bonne journée. Je pleure, je ris, je suis triste, je suis heureux, je vis.
Robert Dilbundi travaille aujourd'hui à temps partiel au Centre mondial du cyclisme et est membre du comité directeur de Swiss Cycling.
Sport Matin avec le Tour de Romandie et Vaudoise Assurance.
5h et un peu plus de 8 minutes, bientôt 5h09, ce sont les petits matins. Merci de nous accompagner aujourd'hui encore. Marre de perdre vos objets, c'est une question, marre de perdre vos objets, point d'interrogation. Eh bien, c'est le slogan qu'a choisi l'entreprise Sécufort. Ça s'écrit S-U-C-U. 4, hein, puis ça se prononce Sécufort. C'est une société basée en Valais, à Sierre, et qui propose un système de protection des objets de valeur, le Blue Watchdog. Blue comme Bluetooth et Watchdog comme chien de garde. Ralph Rimet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Sécufort SA à Sierre, en Valais. Vous allez bien?
Mais super, super.
Donc, vous êtes un jeune entrepreneur. Nous dirons que vous faites partie de ces entrepreneurs innovants qui font, disent certains, la fierté de ce pays. Ça vous flatte ?
Ben, effectivement, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Je pense que c'est une rémunération aussi du travail qu'on entreprend, puisque comme entrepreneur, on prend beaucoup de risques. Et souvent, au départ, il faut beaucoup s'investir. Et je pense que quand on a ce genre de retour, c'est toujours très, très gratifiant pour l'ego et ça permet vraiment de se motiver aussi à continuer et à prendre encore plus de risques chaque jour pour travailler pour l'innovation en Suisse.
Nous dirons que Sécufort, votre entreprise, est installée, en tout cas la direction, est installée à Sierre, au Technopôle de Sierre.
Oui, c'est juste. Donc on a nos bureaux là-bas depuis maintenant 6 ans. Et puis, effectivement, on a des représentants de notre entreprise qui sont un petit peu dispatchés dans différents pays, qui s'occupent notamment de la partie commerciale, mais toute la partie développement des produits se fait à Sierre au Technopôle. Ouais.
Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du Valais, pour que sais-je, les résidences secondaires, le tourisme. C'est vrai que le tourisme est un secteur important. Mais on oublie aussi de dire que les nouvelles technologies s'installent en Valais, qu'il y a des biotechnologies, qu'il y a des technologies liées à l'Internet, à l'électronique. Enfin, il y a beaucoup de choses. Le Valais est un véritable bouillon de culture et on a tendance un petit peu à l'occulter.
Oui, tout à fait, c'est juste. Et notamment, enfin, pour moi qui ai fait mes études à Lausanne, donc j'ai fait des études d'économiste, j'ai fait mon travail, donc j'ai fait mon travail marketing au départ quand j'ai monté cette entreprise. J'ai essayé de comprendre quels étaient les cantons avec les meilleures perspectives et les meilleurs soutiens pour créer une entreprise. Et très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que le Valais avait vraiment compris très tôt le soutien à l'entrepreneuriat, le financement et tout ce qui était inhérent au support à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Et j'ai décidé d'aller m'installer là-bas, effectivement, et de créer mon entreprise au Technopôle. Et je dois dire qu'aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'est la meilleure solution que j'ai prise parce que les conditions cadres que le Valais a aujourd'hui pour réaliser l'innovation et créer les nouvelles technologies sont excellentes. Effectivement, mis à part le tourisme et le fait que le cadre soit idéal pour vivre également, je crois qu'aujourd'hui, le Valais a très très tôt anticipé cette migration vers ces nouvelles technologies et nous a permis, en tout cas pour nous Sécufort et pour d'autres entreprises, de pouvoir croître dans des conditions idéales.
Alors nous allons parler, mais surtout en deuxième demi-heure, de votre production et de votre invention, parce que votre entreprise est basée sur une invention, donc ce fameux Blue Watchdog.
Alors il s'appelle Sécufort aujourd'hui.
Ah, ça s'appelle Sécufort
Bags.
Voilà.
Sécufort Bags.
Vous avez changé de nom.
Alors c'est une nouvelle version qui est sortie, effectivement, et le Blue Watchdog a été abandonné, donc on a repositionné en fait les produits, ça fait partie d'une stratégie de marque, et puis je vous expliquerai ça peut-être tout à l'heure, mais effectivement le produit aujourd'hui s'appelle Sécufort Bags, et puis on est devenu accessoire officiel pour iPhone, donc on est le premier accessoire au monde dédié à la sécurité sur l'iPhone et l'iPad.
Remarquable. Et votre invention définitive, car c'est bien votre invention.
Oui, tout à fait. Alors, je suis le concepteur de l'idée et maintenant, je ne suis pas ingénieur moi-même, donc ce n'est pas moi qui ai réalisé l'électronique, mais effectivement, je suis le concepteur du système.
Enfin, vous avez déposé, en tout cas, dans les délais, les petits papiers qu'il faut pour qu'on ne vous vole pas votre idée.
Voilà, tout à fait.
C'est le plus important. Ralph Rimet, parlons un tout petit peu de votre passé, bon pas de tout votre passé, pas par exemple de votre enfance, ou bien plutôt si, tiens parlons de votre enfance. Vous rêviez déjà d'ouvrir une entreprise lorsque vous étiez jeune?
Non, j'ai plutôt un passé de sportif d'élite, donc mon rêve c'était plutôt de devenir joueur professionnel, ce que j'ai presque atteint en jouant une année au Lausanne Hockey Club en Ligue Nationale.
J'y venais.
Voilà, donc j'ai plutôt été orienté sport, j'étais très très sportif et j'ai pas vraiment pensé à mon avenir professionnel jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc j'étais très orienté sport, j'allais aux études parce qu'il fallait que je fasse quelque chose à côté, mais j'avais pas spécialement la botte des études ou l'ambition de devenir avec une idée très très carrée de ce que je voulais faire plus tard.
Je ne sais pas si vous êtes un génie, mais d'ailleurs on dit souvent que les gens géniaux échappent au parcours traditionnel d'une scolarité sereine et roborative. Apparemment c'est le cas pour vous.
Oui, je pense que j'ai eu un parcours assez atypique parce que j'ai fait d'abord une formation scientifique en même temps que je faisais mon sport. Et puis ensuite, un jour, quand j'ai décidé que ma carrière ne se ferait pas dans le sport d'élite, mais qu'il fallait que je me réinsère dans la vie professionnelle classique, on va dire, j'ai tout recommencé à zéro, mais vraiment à zéro. J'ai repris un apprentissage à 23 ans. J'ai travaillé dans les bureaux parce que je commence à avoir plus une fibre commerciale. Et puis ensuite, moi qui ai toujours pensé que je ferais jamais d'études, j'ai enchaîné avec une université, donc avec la haute école de gestion. Je suis devenu économiste, j'ai fait des études qui finalement se sont avérées plutôt brillantes, alors que je pensais que j'étais tout à fait inapte pour des études. Et puis, dans le cursus académique, j'en ai profité pour monter mon entreprise en même temps que je terminais mes études. Et puis finalement, je crois que j'ai un parcours qui est assez intéressant. Et puis au final, je crois que j'ai fait les bons choix. Et puis voilà.
Arrêtons-nous quand même sur cette période de votre vie qui vous a vu joueur de hockey professionnel pendant une année.
Hein, oui, pendant une année, oui.
Au Lausanne Sport. Pourquoi le Lausanne Sport? Je sais pas, il y a une équipe de hockey en Valais, notamment à Sierre.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, ils se battent souvent avec leurs voisins de l'OS, je crois.
Viège, je songe à Viège, c'est vrai. Non, bon, écoutez, après, ça fait partie un petit peu. Les joueurs de hockey ont l'habitude de migrer. En Suisse romande, on a l'habitude de changer de club. Donc après, c'était Lausanne ici. Voilà quoi. Après, j'ai joué aussi à Neuchâtel, j'ai joué à Bulle, j'ai joué dans différents clubs presque partout en Suisse romande. Aujourd'hui, je joue encore à Montana en deuxième ligue. Donc je salue d'ailleurs tous mes coéquipiers.
C'est plutôt un loisir alors.
Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un loisir. C'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir et surtout pour le quatrième tiers, on va dire.
Alors injustement, les sportifs sont souvent accusés d'avoir une petite tête et de gros muscles. Apparemment, c'est pas votre cas.
Ben j'ai essayé de combler le maximum de ce qu'il y avait dans la tête à combler. Après, je pense qu'il y a des sportifs. Au contraire, je pense qu'il y a des sportifs qui sont qui ont justement aussi beaucoup dans la tête parce qu'ils ont beaucoup cette volonté, ce courage qu'on a besoin pour entreprendre. Et j'en retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat, vu que je côtoie beaucoup d'entrepreneurs ici en Suisse romande, même au niveau international. Et je crois que c'est une qualité d'avoir un background de sportif, comme certains sont musiciens, et d'être allé assez haut et assez loin dans sa carrière permet justement d'avoir des bases, d'être structuré. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est nécessaire quand on entreprend.
Oui, c'est vrai qu'on voit pas ça d'anciens sportifs qui réussissent dans les affaires.
Oui, c'est juste.
C'est le côté un peu hargneux, un peu volonté de vaincre, sans doute.
Oui, je pense, et vous verrez tout à l'heure aussi avec Pascal Meyer, qui est aussi un hockeyeur d'ailleurs, que voilà, on a une espèce de niaque comme ça qui nous permet d'avancer, et elle est nécessaire, parce que je peux vous dire que entreprendre et créer une entreprise, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage et beaucoup de résistance.
Pascal Meyer, qui, je le précise, sera votre invité téléphone aux alentours de 6h-10, on a encore le temps.
Hein. Exact.
Il est 5h17, les petits matins.
Je vais descendre là, je n'irai pas plus loin avec toi. Ça s'est passé comme ça, mais c'est du passé, tu verras. On s'est vu tous les jours, j'en ai le souffle court et j'étouffe. C'était juste histoire de tuer mon désespoir, au revoir.
Voilà, sans amour, Amandine Bourgeois, elle ne manque pas d'énergie, cette dame, à 5h19.
Les petits matins.
Et c'est l'heure de décalage horaire. Ce matin, nous sommes en décalage horaire avec Alain Arnaud, notre correspondant à Pékin, en Chine. Bonjour Alain Arnaud.
Bonjour Georges Pop.
Alors c'est le scandale politique le plus retentissant de toute l'histoire de la République populaire, m'avez-vous dit. Des cadavres, de l'espionnage, des purges, des femmes, des milliards. C'est l'affaire Bo Xilai, une affaire qui tient en haleine toute la nation, toute la Chine.
Ouais, c'est vrai, hein, et depuis bientôt 6 semaines, c'est vrai qu'elle rassemble tous les ingrédients d'un très bon polar de série noire, avec dans le rôle du truand Bo Xilai, le tout-puissant dirigeant de la ville de Chongqing. Chongqing, vous savez, c'est cette métropole tentaculaire dans l'ouest de la Chine, 28 millions d'habitants, certains y voient la plus grande cité au monde. Eh bien, le mois dernier, coup de tonnerre, Bo Xilai était limogé, démis de ses fonctions politiques à Chongqing, et repatatra 3 semaines plus tard, il perd son poste au sein du comité central du Parti communiste, lui qui rêvait de diriger le pays. Donc je disais Bo Xilai, le truand, il faudrait peut-être aussi dire la victime, on ne sait pas trop à vrai dire.
Mais quel suspense, quel sens du récit, de quoi est-ce qu'on l'accuse Alain Arnaud?
Eh bien, de graves atteintes à la discipline du parti. C'est suffisamment flou pour laisser place à toutes les interprétations. Corruption, népotisme, ambition démesurée, mais aussi règlement de compte à l'intérieur du parti contre un concurrent apparemment trop charismatique. Et ça n'est pas tout, il y a aussi un cadavre dans l'histoire, celui de Neil Heywood, un homme d'affaires britannique retrouvé mort en novembre dernier dans un hôtel de Chongqing. Scotland Yard, Interpol, le FBI, tout le monde est sur le coup.
Parce qu'on l'aura compris, on ne parle pas de mort naturelle.
Alors on accuse la femme de Bo Xilai, sa femme, de l'avoir assassinée ou d'avoir organisé l'assassinat de cet Anglais qui serait mort au cyanure. Pourtant, en novembre, après le décès, la police de Chongqing, dans un premier temps, avait conclu à un abus d'alcool, alors que Neil Heywood ne boit pas. Le corps avait été incinéré sans autopsie. Ce n'est qu'au moment du limogeage de Bo Xilai que l'hypothèse du meurtre est tout à coup apparue.
Alors on a un mobile, pas de meurtre sans mobile.
Effectivement, alors il semble que Neil Heywood, qui était un proche de la famille Bo, que Neil Heywood est menacé de révéler les malversations financières du couple dirigeant. Le chef de la police de Chongqing, le bras droit de Bo Xilai, ce chef était au courant, il aurait informé Bo Xilai de l'enquête qu'il entendait mener, et Bo Xilai aurait tout fait pour l'empêcher de faire la lumière sur ce crime qui menaçait sa carrière.
Mais le chef de la police a tout de même enquêté, m'avez-vous dit.
Il a essayé, mais à vrai dire, il a été limogé lui aussi par Bo Xilai et probablement très sérieusement menacé. Alors, il a tenté de fuir. Il a demandé l'asile au consulat américain de Chengdu, à 600 kilomètres de Chongqing. Et c'est là que l'affaire a pris une dimension internationale et que l'empire de Bo Xilai a véritablement commencé à s'écrouler.
Et aujourd'hui, Alain Arnaud, on en est où?
Eh bien, le couple a été mis au frais, hein, on ignore quel sera son sort. La Chine, quant à elle, bruisse de rumeurs. Les médias officiels publient tous les jours des éditos pour dire que personne en Chine n'est au-dessus des lois, pas même les hauts dirigeants. Mais l'opinion publique qui ne tient pas les leaders dans son cœur, estime de son côté que Bo Xilai est un dirigeant corrompu au même titre que tous les autres. Pour le parti, en tout cas, c'est un coup très très dur qui souligne ses divisions, ses déchirements, ses luttes de pouvoir. Donc oui, la Chine traverse une période explosive à quelques mois du congrès qui doit désigner cet automne la nouvelle équipe dirigeante. Et la crise, je vous l'assure, n'est pas finie, de loin pas.
Écoutez, on suivra les prochains épisodes avec vous très certainement. Je vous laisse aller car je sais que vous avez un rendez-vous urgent dans moins d'une demi-heure. Il est quelle heure à Pékin?
Il est 11h24.
Voilà, toujours manière de bien souligner que nous sommes en direct. Voilà. Merci beaucoup. Absolument. Alain Arnaud. Je vous souhaite une excellente suite de journée à Pékin.
Merci de même.
Le Monde est passionnant. Du 25 au 29 avril, il vous donne rendez-vous sur le stand de la radio-télévision suisse au Salon international du livre et de la presse à Palexpo, Genève. De la radio, de la télévision, du multimédia, une boutique, des rencontres, des dédicaces, des invités et un bar. Équipe technique, animateurs et journalistes vous attendent au boulevard Charlotte Brontë. La RTS au Salon du Livre et de la Presse du 25 au 29 avril et en tout temps sur rts.ch.
5h24, nous sommes avec Ralph Rimet, il est fondateur de Sécufort SA à Sierre, donc en Valais, une entreprise qui propose un système tout à fait inédit, même des systèmes de protection des objets de valeur. Ralph Rimet, on l'a dit, vous êtes jeune, vous avez quel âge ?
Alors j'ai 33 ans.
Voilà, jeune entrepreneur. À quel moment, on a parlé tout à l'heure de votre carrière sportive, hein, vous étiez au HC Lausanne, Lausanne Hockey Club. Donc à quel moment avez-vous décidé de lancer votre entreprise ?
Alors ça s'est fait vraiment dans la dernière année de mes études. Donc vraiment j'ai décidé, j'ai choisi délibérément, en fait on a le droit de choisir une spécialisation dans le cadre de la dernière année de la haute école, et j'ai choisi l'entrepreneuriat, la gestion de l'innovation. Et dans le cadre de ce programme qui s'appelle Business Experience, j'ai eu la chance de pouvoir obtenir des fonds avec un groupe d'amis, enfin de camarades qui étudiaient avec moi, et de pouvoir développer une idée, un concept de business qui s'est avéré être ce qu'on a parlé tout à l'heure, le Blue Watchdog, qui est devenu le Sécufort Bags. Et c'est de là qu'est née l'idée, en fait. Et pendant la première année, comme on n'était que des économistes, on ne savait pas créer, donc on ne savait pas faire l'électronique. Donc on a réfléchi au concept, on a fait des études de marché, on a interviewé beaucoup de gens, et on a essayé de comprendre quelle était la problématique et le besoin qui existait sur le marché pour ensuite en faire un produit. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est le principe tout bête du marketing, on a réfléchi à un besoin, on l'a couvert en créant un produit. Et puis c'est comme ça que l'idée est partie, et quand j'ai vu ce produit, quand je l'ai vu fonctionner, je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans de nouveau, il y a quelque chose de novateur, et je pense que j'ai eu raison, puisqu'aujourd'hui...
ça marche.
Non seulement ça marche, mais on s'est inscrit très tôt dans un nouveau marché, dans un concept qui s'appelle les accessories, donc qui sont des accessoires pour les téléphones portables qui fonctionnent via des applications. Et aujourd'hui, notre société est vraiment la première dans le monde et une des seules qui est capable de gérer autant la partie applicative sur les téléphones portables que les accessoires autour du téléphone portable. Donc aujourd'hui, ça nous ouvre des perspectives et beaucoup de différents développements qui arrivent, notamment 3 autres produits qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Et c'est ce développement-là aujourd'hui qui nous permet d'être aujourd'hui un des leaders dans l'innovation de ces accessories.
Alors, ces accessoires, ces produits, on va en parler plus en détail tout à l'heure. J'aimerais simplement revenir à ce moment. À ce moment précis où vous décidez, avec de l'argent venu je ne sais d'où, vous allez nous dire, de vous lancer, vous, jeune hockeyeur, plein d'imagination. Hein, vous sortez à ce moment de la HEG de Lausanne. Aujourd'hui, c'est la HEIG d'Yverdon, qu'on salue d'ailleurs, parce que j'y ai quelques accointances aussi. Vous sortez de cette école et vous créez votre entreprise. Et à un âge où généralement, on a quand même un peu peur de prendre des risques, notamment financiers.
Ouais, alors je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je dois me dire un petit peu que je suis un peu fou, parce que à l'époque, je sortais des études, j'avais donc pas un rond en poche, mais vraiment pas un rond. Donc, en plus, je venais de me séparer en fait de la maman de mon fils, donc j'avais plus d'appartement, j'avais pas de rond, j'avais pas de métier, donc ou pas encore, on va dire. Et puis j'ai travaillé un petit peu, je faisais des petits boulots, j'ai travaillé chez Securitas, je travaillais le week-end, et puis
c'est vrai que vous avez un physique qui se prête à la sécurité. En tout cas, d'abord, vous avez fait du hockey, donc
voilà, j'ai pu un petit peu allier l'utile à l'agréable, on va dire ça comme ça. Ça m'a permis effectivement de pouvoir avoir un métier aussi qui était fort intéressant, et puis j'ai donc décidé de me lancer. Et je me souviendrai toujours, parce que ma principale préoccupation, c'était de savoir comment j'allais manger à la fin du mois. Et j'ai mon meilleur ami qui m'a hébergé pendant 8 mois sur son canapé. Donc j'ai dormi 8 mois sur le canapé de mon meilleur ami. Et entre-temps, j'avais reçu des propositions de travail. Donc j'avais notamment une super place qui m'était proposée à Genève. Et puis je me souviendrai toujours, parce que le directeur à l'époque m'avait dit, mais écoute, c'est une super opportunité, t'es sûr que tu veux pas venir travailler? Et j'ai dit non, je pense que j'ai autre chose à faire dans ma vie, j'ai vraiment un projet qui me tient à cœur, et je pense que je tiens quelque chose de vraiment bien. Et je me souviens d'avoir refusé un poste qui était vraiment vraiment bien pour mon âge et pour ma carrière, et de préférer aller dormir sur le canapé de mon ami, et de réinvestir pratiquement la moitié de ce que je gagnais, ce qui n'était pas grand-chose à l'époque, mais dans la conception du produit. Donc vraiment, le démarrage s'est fait comme ça, et je j'ai toujours eu cette niaque et cette envie de le faire.
Vous aviez confiance en vous.
J'avais confiance en moi.
Vous étiez sûr d'y parvenir.
Ouais, j'avais tellement confiance que j'ai fait à peu près une septantaine de présentations la première année à des investisseurs. J'avais monté un business plan que j'améliorais. Je prenais des coups, mais j'avançais. Mmh. Et puis, je me souviendrai toujours parce que je partais le matin, j'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais été acheter un super costard. Je prenais le train en première classe. J'allais à Zurich manger dans des restaurants chics, rencontrer des investisseurs. Et le soir, je rentrais à la maison manger des raviolis.
En boîte,
et c'était assez paradoxal. Et quand j'en parle avec mon meilleur ami, souvent on en rigole parce qu'effectivement, il me dit mais tu sais, mon canapé, peut-être qu'un jour il aura de la valeur. Et ça, c'est des moments qui, avec le recul aujourd'hui, me disent ouais, j'ai passé par des moments difficiles, mais aujourd'hui, je sais pourquoi je l'ai fait. Et je pense que c'était des choix qui se sont imposés à cette époque-là et que j'ai vraiment apprécié prendre malgré les risques et malgré tout ce que ça demandait comme sacrifice.
Nous sommes avec Ralph Rimet, il est fondateur et directeur de Sécufort à Sierre, en Valais. On le retrouve après le journal, car il est 5h30 et c'est l'heure d'entendre les informations avec Laurence Milazevic.
Le ministre des Affaires étrangères Didier Burkhalter reçoit son homologue israélien Avigdor Lieberman aujourd'hui à Berne. C'est la première fois depuis 2003 qu'un chef de la diplomatie israélienne est accueilli en Suisse. Les deux hommes évoqueront les relations bilatérales et la situation au Proche-Orient. Il sera peut-être question aussi de développer la collaboration scientifique entre les deux pays. À Berne, cette rencontre marque un tournant dans la politique du DFAE dans la région. Christian Favre.
Durant ses 9 années à la tête des affaires étrangères, Micheline Calmiret a tenté de positionner la Suisse comme une faiseur de paix au Proche-Orient, notamment à travers l'initiative de Genève. Or, en critiquant les opérations militaires israéliennes sur le Liban ou sur Gaza en 2009, la ministre s'est surtout attirée la colère de Tel Aviv. Aujourd'hui, Didier Burkhalter veut changer de cap, rétablir des relations normales avec Israël. Et dans cette optique, recevoir Avigdor Lieberman en Suisse est symbolique. Pourquoi ? Eh bien parce que celui qui habite une colonie illégale sur territoire cisjordanien incarne la frange la plus musclée, la plus fondamentaliste de la droite israélienne, qualifiée volontiers d'outrancière et de raciste par les éditorialistes de son propre pays. En Suisse, cette visite scandalise les milieux pro-palestiniens, convaincus qu'elle affaiblit la position de la Suisse et sape les efforts de médiation du DFAE. Du côté des services de Didier Burkhalter, on rappelle calmement que cette rencontre a été initiée par Tel Aviv, que la Suisse ne refuse le dialogue avec aucun des acteurs de la région, y compris le Hamas.
Le département fédéral des affaires étrangères est en contact avec le groupe auprès duquel la ressortissante suisse enlevée le 15 avril au Mali se trouve en ce moment. Selon des sources locales, la Suissesse se trouve entre les mains du groupe islamiste armé Ansardin. Ce groupe l'a reprise à ses ravisseurs et se dit prête à la libérer. Le groupe de luxe Richemont s'apprête à investir environ 100 millions de francs dans un projet de campus à la haute horlogerie. Un campus qui sera inauguré à Genève en 2014. Il pourra accueillir plus de 900 collaborateurs d'ici 2020, précise le groupe Genevois. C'est la crise aux Pays-Bas. Depuis un an et demi, le gouvernement minoritaire du libéral néerlandais Mark Rutte tenait bon grâce au soutien de l'extrême droite au Parlement. Cette stratégie avait permis à son chef, le xénophobe Geert Wilders, d'obtenir une réduction de l'immigration et la baisse de certaines subventions, conformément à son programme islamophobe et eurosceptique. Mais hier, ce même Geert Wilders a fait tomber le gouvernement. Explication et analyse d'Alain Franco à Bruxelles.
Cela faisait plusieurs semaines que le gouvernement minoritaire du libéral Mark Rutte négociait avec l'extrême droite de Geert Wilders une réduction du déficit budgétaire proche de 5%. Il fallait trouver 16 milliards d'euros d'économies, trop mal répartis, a tranché Wilders, inquiet aussi de la montée de l'extrême gauche dans les sondages et qui s'est donc retiré, obligeant Mark Rutte à présenter sa démission. Cette chute est riche de 3 enseignements. D'abord, elle vient s'ajouter à une liste déjà longue de gouvernements qui tombent, balayés par les conséquences de la crise de la dette dans la zone euro. Ensuite, elle consacre le pouvoir d'arbitre de l'extrême droite en Hollande, une extrême droite dont le cheval de bataille reste la lutte contre l'immigration, mais qui se veut plus à l'écoute des petites gens. La stratégie fait école en Europe. Le positionnement de Marine Le Pen présente d'ailleurs beaucoup de similitudes avec celui de Wilders. Enfin, pour boucler son budget, le gouvernement néerlandais pourrait se tourner vers les socialistes qui exigeront de mettre l'accent sur la relance pour contrebalancer l'austérité. Nous sommes sur la même ligne que François Hollande, confie un responsable socialiste. Un soutien de plus pour le candidat à la présidence française, de moins en moins isolée sur la scène européenne. Alain Franco, RTS Info, Bruxelles.
François Hollande et Nicolas Sarkozy se sont directement adressés aux électeurs de l'extrême droite hier après le premier tour de la présidentielle de dimanche. Ces électeurs pèseront lourd sur la balance, dans la balance, suite au score de leur candidate Marine Le Pen. La mortalité due à la rougeole a diminué de 74% entre 2000 et 2010 dans le monde. Cette baisse n'a pas atteint l'objectif de 90% fixé par l'OMS, selon une étude publiée hier. Les vaccins sont insuffisants en Inde et les épidémies persistent en Afrique. Le football suisse ne cesse de se faire remarquer à l'étranger. Hier, 4 des 9 clubs de Super League n'ont pas obtenu leur licence en première instance. Les médias étrangers ont relayé l'information. Bernardin Alemann, on n'aura jamais autant parlé de football suisse depuis une année.
Christian Constantin a été le premier à attirer les feux des projecteurs. Même le très puissant quotidien espagnol AS lui avait offert une magnifique tribune lors d'un déplacement à Madrid. Les interventions de Blatter et Platini ont évidemment trouvé place dans les médias européens, intrigués de faire connaître à leurs lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, Constantin, ce provocateur, ou alors ce nouveau Guillaume Tell suisse. Boulat Tchagaïev a ensuite pris le relais. Il a fini sur le podium du classement des dirigeants sportifs les plus fous établi par un journal australien. Ses rapports avec le président Tchétchène Kadyrov ou ses bras d'honneur ont été bien relaté, notamment chez nos voisins, par le journal L'Équipe ou encore Le Parisien, qui se demandait quand cette farce allait cesser. Maïd Pichard a ensuite apporté sa pierre à cette image et licence d'hier en rajoute une couche. Bonne nouvelle pour le CEO de la Swiss Football League, Claudius Schäfer, ça ne pourra pas être pire.
C'est une saison qu'on ne veut pas subir encore une fois dans le futur, mais on l'avait cette saison, malheureusement. Alors je parle de l'avis que c'est maintenant fini pour cette saison.
La Swiss Football League peut remercier Bâle, qui par ses exploits en Ligue des Champions a amené les seuls commentaires positifs de la presse étrangère.
Facebook va débourser 500 millions de francs pour acheter des centaines de brevets à Microsoft. Facebook renforce ses défenses de propriété intellectuelle et multiplie les grosses dépenses à l'approche de son entrée en bourse. Tous les grands constructeurs automobiles de la planète ont répondu présent hier à l'ouverture du salon de l'automobile de Pékin pour séduire le public du premier marché mondial. L'événement est très très médiatisé. 12 500 journalistes représentant 1 500 médias chinois et étrangers sont attendus sur une surface d'exposition record.
C'était le journal de Laurence Milazevic. Retour de l'actualité à 6h sur la première. La météo tout de suite avec Stéphanie Collère.
Ce matin, le ciel est très nuageux et accompagné de précipitations. Cet après-midi, quelques éclaircies se développeront, mais des averses alterneront avec ces brefs moments d'ensoleillement. La limite pluie-neige se situera aux environs de 1000 mètres. En Valais, les éclaircies seront plus généreuses et les précipitations plus faibles que sur les autres régions. Température ce matin proche de 5 degrés, cet après-midi entre 10 et 12. Demain, malgré des passages nuageux parfois assez denses, le temps sera généralement sec et assez ensoleillé. Quelques gouttes ne sont pas exclus sur le Jura. Jeudi, le temps sera sec, assez ensoleillé et doux. Vendredi, le temps sera bien ensoleillé toute la journée et il fera chaud. Température l'après-midi entre 25 et 27 degrés.
Les petits matins à 5h37, nous sommes avec Ralph Rimet, il est fondateur de l'entreprise Sécufort. Sécufort, oui, c'est comme ça. C'est vrai que c'est difficile à lire parce que c'est écrit S-E-C-U et puis 4, puis ça se prononce à l'anglaise, Sécufort, à Sierre, en Valais.
Les petits matins, Georges Porc.
Et puis Ralph Rimet incarne un petit peu, il représente en quelque sorte tous ces jeunes innovateurs qui permettent à l'économie helvétique de vivre et de se pérenniser. C'est un inventeur, Ralph Rimet. On va parler de votre coup de génie, car c'en est un quand même, au risque de vous flatter un petit peu. Mais j'ai lu un article qui vous est consacré où je découvre que début 2007, vous créez donc votre entreprise, c'était il n'y a pas très longtemps. J'ai sollicité, avez-vous dit, tous mes amis ainsi que deux business angels. Vous nous expliquerez ce que ce sont des business angels. Et on a réussi à réunir 50 000 francs, ce qui nous a permis de miniaturiser notre produit et de l'industrialiser. C'est comme ça que ça a commencé.
Oui, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, perspective 3 mois, atteindre des objectifs après 3 mois pour être sûr de pouvoir relever des fonds derrière. Et en fait, la vie d'un entrepreneur, c'est atteindre des objectifs, obtenir de nouveaux financements pour pouvoir à la fin atteindre un marché. Et c'est effectivement comme ça que ça a démarré. Donc, après une année de recherche de financement, donc en 2006, j'ai passé une année à chercher de l'argent. Mmh. J'ai décidé de mettre ma chemise à moi dedans pour dire aux gens, écoutez, je crois vraiment en ce que je fais et je vous dis que ce que je fais est vraiment bien. Et c'était la première étape qui a permis ensuite d'enchaîner. Donc, on a levé d'abord 50 000 francs, ensuite on a fait 300 000, 600 000, et puis maintenant on a levé à peu près 3 millions de francs depuis 2007. Et puis on est dans un nouveau tour d'investissement aujourd'hui qui va nous permettre justement d'atteindre le rayonnement international.
Alors, vous n'allez pas à la banque ou peut-être y êtes-vous allé simplement, on vous a dit non. Le fait est que vous tapez vos copains et que vous faites appel à des, comment avons-nous dit,
business angels.
Ouais, qu'est-ce que c'est?
Alors les business angels, c'est justement des gens un petit peu, ce que j'espère être un jour d'ailleurs, qui ont réussi ou qui ont une carrière professionnelle qui permet d'avoir certains moyens et qui offrent de leur temps et offrent de leur, enfin on va pas dire offrent de l'argent, mais qui investissent leur argent dans des entrepreneurs et dans des entreprises ou dans des produits auxquels ils croient. Donc un business angel qui est quelqu'un qui vous met non seulement à disposition de l'argent, mais de l'intelligence et ce qu'on appelle du smart money, donc de l'aide qui va autour de votre entreprise et qui va vous permettre de faciliter en fait votre construction autour de votre entreprise. Comme genre d'entrepreneur, vous n'avez aucune expérience, donc vous êtes censé être directeur d'une entreprise sans avoir aucune expérience. Mmh. Donc il faut construire. Et puis j'ai eu la chance de m'entourer très rapidement de business angels très performants qui m'ont structuré, qui m'ont vraiment amené à un niveau de management qui aujourd'hui, avec le recul, me permet d'avoir vraiment une très très bonne expérience.
Ils vous ont couvé en quelque sorte.
Oui, on peut dire ça. Enfin, couvé, c'est maternel. Hein. Ouais. Je dirais qu'ils ont plutôt... Je retrouve le domaine du sport. On m'a plutôt challengé, on va dire ça comme ça. Et puis, on m'a surtout poussé. Et moi, je suis quelqu'un qui aime les challenges, qui aime les défis. Donc, c'est clair que c'est comme ça qu'on a motivé aussi, qu'on m'a motivé. Et aujourd'hui, je suis arrivé là où je suis arrivé parce qu'on a su aussi appuyer sur les bons boutons, on va dire ça comme ça.
Alors, on va parler de votre produit phare. Hein. On peut parler d'un coup de génie, sans doute, puisque vous avez eu une idée. À partir de cette idée, vous avez créé un produit phare. Ça marche. Votre entreprise décolle. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise qui marche. Alors, marre de perdre vos objets, ça c'est votre slogan, c'est le slogan que choisit Sécufor, donc société qui propose désormais un système de protection des objets de valeur. Alors, à l'origine, ça s'appelait Blue Watchdog, Blue comme Bluetooth et Watchdog comme chien de garde. Aujourd'hui, ça s'appelle Sécufor. Alors, vous allez nous expliquer comment fonctionne ce premier système d'alarme au monde qui fonctionne avec le Bluetooth d'un téléphone mobile.
Oui, alors le système est relativement simple. L'idée, c'était de faire quelque chose qui soit pratique pour les gens qui se déplacent, qui prennent le train et qui prennent, je dirais, les transports publics de manière générale. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, que les gens avaient certaines valeurs avec eux, que cette valeur, elle augmentait et puis qu'il fallait la sécuriser. Donc, votre laptop, aujourd'hui, il vaut 1 000 000 francs. Et puis, vous êtes dans le train, vous êtes en train de payer au supermarché, ou etc. Et vous êtes dans des situations, pendant que vous vous déplacez, où vous n'avez pas la possibilité de vous protéger. Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a on a créé un système format carte de crédit que vous allez insérer dans votre, par exemple, dans votre laptop, mais ça peut être votre porte-monnaie, ça peut être votre sac à main, votre sac, n'importe quel objet que vous transportez avec vous. Vous avez une application.
Sa compagne, par exemple.
Sa compagne, exactement.
Si on a peur de la perdre.
Voilà,
c'est son compagnon pour les dames.
Son compagnon, exactement.
Voilà, si on veut le surveiller de
près. Voilà, exactement. Et puis, ce que vous allez faire, donc, vous avez une application qui est embarquée sur votre téléphone portable. Cette application, vous allez retrouver dans l'App Store, dans l'Android Market, enfin, sur toutes les plateformes de téléphone portable. Elle s'appelle Sécufor Bags. Elle vous permet de définir une certaine zone de protection à l'intérieur de laquelle vous allez être protégé. Si votre objet franchit cette zone de protection, automatiquement vous recevez une alerte sur votre téléphone portable et sur notre carte, vous avez une alarme qui peut monter jusqu'à 110 décibels. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un système qui est actif et qui vous permet de récupérer vos objets. Mmh. On a notamment eu le
110 décibels, c'est presque le bruit d'un avion qui décolle.
Oui, c'est vraiment fort, hein. Mais il faut ça pour pouvoir surprendre le voleur, en fait. Et on a eu le cas à Genève d'un de nos clients qui s'est fait voler pendant qu'il était dans la queue du check-in. Et le système a fonctionné, c'est-à-dire que la personne est partie. Au bout d'une dizaine de mètres, il a reçu l'alerte sur son téléphone. L'alarme est partie selon sa valise. Et le voleur a été tellement surpris qu'il est parti en courant. Et puis, le monsieur a pu récupérer sa mallette. Donc, c'est vraiment un système qui est simple, pratique, sur lequel on reste connecté en permanence. Et puis, qui aujourd'hui permet de sécuriser un tas de personnes qui se voyagent et qui se déplacent aujourd'hui de manière très simple et via une application sur son téléphone portable.
Ralph Rimet, je lis que l'idée de créer ce système vous est venue après qu'un de vos amis a perdu un objet ou a été volé dans un train, c'est vrai?
Oui, c'est juste, tout à fait. L'idée,
ça fait partie de votre légende, c'est un petit peu...
Oui, aujourd'hui c'est devenu une légende, mais sur le moment on a beaucoup ri en fait, parce que c'était effectivement un de mes amis. On allait d'ailleurs visiter le Research Center de IBM à Pfäffikon, et on a pris le train, et à Zurich, on sort du train et un de mes amis laisser tomber son porte-monnaie. Et il y a une dame très gentille, et ça c'est vraiment typiquement suisse, hein, la dame très gentille qui revient, vous avez voulu votre porte-monnaie? Et puis on en a beaucoup ri, parce évidemment on s'est un peu moqué de lui, et puis ensuite
vous aviez quoi, vous aviez 25, 26 ans?
Voilà, j'avais 26 ans. Ouais. Et puis on s'est dit, tiens, c'est marrant, il n'y a pas de système qui existe. Aujourd'hui on a des câbles pour les portables, mais quand on se déplace, il n'y a rien. Alors aujourd'hui, nous, on a complémenté, en fait, vous avez les protections locales quand vous êtes au bureau, et puis vous utilisez le Sec4Bags quand vous sortez de votre bureau, puis vous déplacez. Vous allez d'un point A à un point B, vous allumez votre Sec4Bags. Donc aujourd'hui, c'est la logique, en fait, de cette expérience qu'on veut, Sec4Bags, c'est vraiment de pouvoir vous apporter le sentiment de sécurité, parce que souvent, moi, avant, je voyageais avec mon laptop entre les jambes, bien serré pour être sûr que personne ne me le pique. Aujourd'hui, je le pose facilement en haut sur la tablette où on met ses valises, et puis je suis serein parce que j'ai mon téléphone dans la poche, et s'il se passe quelque chose, directement je suis averti.
Alors, votre entreprise, elle marche. Aujourd'hui, votre siège est en Valais, à Sierre, au Technopôle de Sierre. Vous avez des collaborateurs ici en Suisse et puis aussi à l'étranger, hein, surtout des commerciaux. Vous vendez ça partout?
Alors, on essaye maintenant de le vendre partout. J'entends, c'est clair que c'est une grosse dynamique de mise en place des marchés. Je veux dire, on construit tout un réseau de distribution. Donc, construire un réseau de distribution, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'investissements. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de créer une nouvelle marque. Si on prend l'exemple de Logitech, pour pas les nommer, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est véritablement devenir un petit peu le pendant de Logitech, mais dans le domaine des accessoires pour téléphone portable. Et aujourd'hui, c'est un nouveau marché de niche qui s'ouvre avec ce marché des accessories. Et c'est un marché où on est vraiment aujourd'hui les leaders, où on arrive avec une position de force, puisqu'on maîtrise autant le développement de ces devices hardware, la partie physique électronique, mais également la partie applicative sur les téléphones portables. On est capable de développer des softwares sur Android, sur iPhone, sur BlackBerry et même sur les anciens téléphones.
Alors, ce premier système d'alarme fonctionnant avec Bluetooth, ça marche, ça se vend, c'est le succès. Mais maintenant, il faut aussi imaginer l'avenir. On ne peut pas s'arrêter sur un succès. J'imagine que vous êtes en train de réfléchir à ce que seront vos inventions de demain.
C'est déjà en route, en fait. Là, c'est ma partie créative. J'adore créer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'obtenir des financements de la Confédération avec les 100 millions qui ont été mis à disposition l'année passée. On a obtenu un projet CTI qui nous a permis de financer notre future roadmap technologique. Donc, on va intégrer aujourd'hui la géolocalisation à nos produits. On va intégrer trois nouvelles gammes de produits. Une qui s'appelle Sec4Phone, qui est un système plus simple qui va permettre de sécuriser votre téléphone portable pendant vos déplacements. Donc ça, c'est spécifiquement pour le téléphone portable. Et puis, on va, au début de l'année prochaine, lancer deux nouvelles gammes de produits. Une qui s'appelle Sec4Kids et une qui s'appelle Sec4Pets, donc pour les animaux et pour les enfants.
Magnifique. Quand on dit, précisément, quand on disait que Ralph Rimet incarne un tout petit peu ces jeunes entrepreneurs innovants qui font l'avenir de ce pays. Voilà, manière de vous complimenter. Vous êtes placé, j'espère.
Oui. C'en est trop.
Ralph Rimet, il est fondateur de Sec4 SA à Sierre, en Valais. 5h47.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you.
Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout, you are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Formidable, l'inimitable Charles Aznavour, 86 ans, même plus, hein, je crois. Il est du côté des États-Unis en tournée, une énergie assez extraordinaire.
Les petits matins.
Et à la demande de notre invité Ralph Rimet, fondateur de l'entreprise Sécufor SA à Sierre, nous faisons sonner notre réveil matin chez Monsieur Pascal Meyer. Bonjour Pascal Meyer.
Oui, bonjour.
Oui, petit décalage satellite, à vrai dire vous n'êtes pas chez vous, vous êtes je crois du côté de Hong Kong, c'est ça?
Alors un petit peu à côté, à Canton précisément.
À Canton, ben voilà, ben, vous savez, oui. Avec la distance, on ne compte plus les kilomètres. donc vous êtes du comté de Canton. Vous êtes Pascal Meyer, le patron, le fondateur de l'entreprise, d'une entreprise qui s'appelle Coca SA. Je tiens à préciser que c'est assez astucieux, hein, parce que ça se dit Coca SA, mais ça s'écrit avec deux Q. Hein, donc Coca.ch, fondateur d'une plateforme fun qui vend des produits technologiques à des prix cassés. On va parler avec vous de l'innovation et du fait d'oser. Mais avant cela, j'ai fait une petite recherche sur Internet. J'ai découvert que l'année dernière, par exemple, c'est un exemple, vous avez vendu une dizaine de Porsche Carrera à moitié prix et des Fiat 500 aussi. Et c'était des Porsche et des Fiat neuves. Et vous avez réussi à les proposer à vos clients à moitié prix. C'est magique, dites-moi.
Ah ouais, on essaye. Justement, ça faisait partie du côté d'être innovant, vu que tout le monde disait... ouais, ce sera impossible de faire ça, ce sera impossible de s'attaquer au monde du luxe, notamment là en l'occurrence la Porsche. Donc du coup on s'est dit bon, on va essayer de tenter l'impossible et puis on y est arrivé. Donc comme le thème c'est oser entreprendre, je dirais oser quoi, pousser, faut y aller quoi. Même si on est tranquille le chat comme équipe, faut y aller quoi,
Alors je fais un petit sourire, j'esquisse un petit sourire parce qu'il m'a dit, Ralph Rimet m'a dit, vous allez le constater, Pascal Meyer dit tout le temps tranquille le chat. Donc vous l'avez dit, c'est bien, il a gagné son pari. Ralph Rimet, Pascal Meyer pour vous, il incarne en quelque sorte ces personnes qui osent dans l'entreprise, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux.
Oui c'est ça, je pense que Pascal, d'ailleurs salut Pascal, c'est Pascal, ça représente vraiment, pour moi c'est la personne qui a pas froid aux yeux et qui fait tout ce que les gens ont toujours voulu faire mais qu'ils le feront jamais. Donc lui, quand on lui dit c'est impossible, il va le faire. Et comme il le dit très bien avec la vente des Porsche, c'est quelqu'un qui ose. C'est quelqu'un qui va au-delà des limitations que le marché donne et c'est dans cette manière-là que lui entreprend. Et pour moi, c'est quelqu'un de très très innovant aujourd'hui et qui a le succès qu'il mérite aujourd'hui parce que justement, il voit le marché différemment.
Donc entreprise Coca.ch, Coca Q-O-Q-A.ch, plateforme fun qui vend des produits technologiques à prix cassé. J'aimerais simplement vous entendre tous les deux sur la chance que l'on a finalement de vivre dans un pays, la Suisse, qui offre une situation cadre, disons, pour la création d'entreprises qui est vraiment extraordinaire. On se rend dans un registre du commerce le matin et en une heure, on a créé notre entreprise. Moins d'une heure. C'est quand même inouï.
Oui, je crois qu'on a de la chance, effectivement. Je pense que les conditions cadres en Suisse, comme j'ai dit, par rapport au Valais, sont encore meilleures à mon avis. Mais on a aujourd'hui la possibilité d'innover facilement. Et je crois que Pascal, tu confirmeras qu'aujourd'hui, il faut juste oser et il faut se lancer. Et derrière, il y a souvent beaucoup plus de facilité que de difficulté.
Tout à fait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de freins, je pense, autour de l'entourage des gens, même si maintenant les mentalités sont en train de changer. Les gens sont plutôt à freiner, à vous dire ouais, mais non, tu peux pas faire ça, non, ça va pas le faire. Mais c'est plus dans notre mentalité en Suisse, on est un petit peu frileux et comme le disait justement Ralph, en Valais, ils ont effectivement des conditions hyper attractives. Oui. Je garantis que c'est également le cas dans notre canton. Il n'y a pas que le Valais, mais
oui, parce que vous êtes jurassien, je crois, d'origine.
Tout à fait, mais je tiens à préciser que moi, de mon côté, j'ai sollicité, j'ai pas eu besoin d'aide parce que c'était assez particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont vraiment des idées assez sympathiques, mais qui n'osent pas. Et puis c'est triste parce que comme vous le disiez justement, il y a vraiment les structures pour. Et puis il faut juste y aller, quoi. Faut foncer, pas se poser trop de questions. Et puis,
L'autre côté, la Suisse est souvent saluée pour sa capacité d'innovation. Bah, il suffit de rappeler qu'on a des écoles polytechniques extrêmement performantes et on draine passablement de cerveau, ce qui est une chance, hein, parce qu'on n'a pas de matière première autrement que la matière grise ici. Heureusement. Et ça a l'air de marcher. Juste dernière petite question avant de vous lâcher, Pascal Meyer, tranquille le chat, comme vous diriez. Vous faites quoi, Canton, sans indiscrétion?
Alors écoutez, actuellement, il y a une foire de tout ce qui est électronique. Donc on va un petit peu voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, comme nouvelle tendance qui se dégage au niveau du marché, étant donné qu'on ne commande pas de produits nous directement en Chine. Donc on va simplement voir quelles sont les nouvelles tendances pour les 2-3 prochaines années à venir, et puis surtout les nouveautés pour nos nouveaux appareils électroniques et autres.
Très bien, saine curiosité. Je vous remercie infiniment, je vous rends à votre foire, et je vous dis à bientôt peut-être. Hein, qui sait ?
Merci beaucoup, à bientôt. Merci.
Bon séjour en Chine.
Salut Pascal.
Ce mardi 24 avril, les rois de la petite reine prendront le départ à Lausanne pour le prologue du Tour de Romandie. Rejoignez-nous dans le village du Tour et dès 12h30, retrouvez les interventions de nos journalistes sportifs ainsi que l'arrivée en direct sur la première et dès 15h30 en images sur RTS2. Le Tour de Romandie, c'est à suivre jusqu'à dimanche sur la première et sur rtssport.ch.
Avec Vaudoise Assurance.
Ralph Rimet, fondateur de Sécufort à Sierre en Valais. C'est l'heure de vous rendre à votre Valais natal, ainsi qu'à Caroline qui vous attend en régie. Et je vous remercie. Je vous remercie de ce moment partagé. Et j'ose pas dire bonne chance, hein, parce que ça porte malheur, paraît-il. Mais enfin, je vous dis tout de bon. Et puis le mot de Cambronne aussi. Tiens.
Merci pour l'invitation.
C'était un plaisir.
This is what
Waitress Boy Valeska Steiner à la voix, le duo féminin Boy qui sera le 18 juillet prochain au Paléo Festival à Nyon. Paléo dont la vente de billets pour le festival donc débute demain, mercredi 25, dès midi. Don du sang, une séance de prise de sang est organisée par les Samaritains de Villars, canton de Vaud, à la grande salle route du village de 13h30 à 15h30, ainsi qu'à Aulon, à la grande salle chemin de la Forge de 17h à 19h30. En ligne directe à partir de 8h avec Nathalie Ducommun. Question du jour, éducation sexuelle aux parents de s'en occuper. C'est une question, point d'interrogation. Vous pourrez en débattre au 0800 23 33 33 à partir de 7h30 ou par SMS. Vous tapez ELD suivi d'un espace et puis votre texte et vous envoyez le tout au 939. Vous pouvez réagir par SMS dès maintenant. Bonjour Simon Matédoré.
Bonjour Georges Pop.
L'heure du relais, moment béni pour moi.
Oui, vous devez retrouver vos feuilles.
Je vais retrouver mes feuilles. Non, c'est bon. Demain, nous recevrons un ancien confrère, Jean-Robert Probst, qui a dirigé notamment le magazine Génération. Et Jean-Robert Probst est auteur d'un livre intitulé « Les Suisses de Paris ». C'est aux éditions Cabedita. Cabedita qui fête ses 25 ans cette année.
Ah, très voilà. Bien. Déjà, j'allais dire.
Déjà.
Merci beaucoup, Georges Pop. Bonne journée.
Bon journal du matin.
À demain.
Infotrafic RTS.
Avec le Tour de Romandie et Vaudois Assurance.
Malgré les chaussées localement glissantes en roule, sans difficulté en Suisse romande. En Valais, la route du col du Simplon est enneigée. Les poids lourds ne peuvent pour leur pas y transiter pour se rendre en Italie. Et puis précisément pour rappel, en ville de Lausanne, en vue du prologue du Tour de Romandie qui se déroulera aujourd'hui, les quais d'Ouchy et de Belgique ainsi que l'avenue des Bains sont fermés jusqu'à ce soir, 19h. Des déviations sont en place.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Météo Stéphanie Collère.
Ce matin, le ciel est très nuageux et accompagné de précipitations. Cet après-midi, quelques éclaircies se développeront, mais des averses alterneront avec ces brefs moments d'ensoleillement. La limite pluie-neige se situera aux environs de 1000 mètres. En Valais, les éclaircies seront plus généreuses et les précipitations plus faibles que sur les autres régions. Température ce matin proche de 5 degrés, cet après-midi entre 10 et 12. Demain, malgré des passages nuageux parfois assez denses, le temps sera généralement sec et assez ensoleillé. Quelques gouttes ne sont pas exclus sur le Jura. Jeudi, le temps sera sec, assez ensoleillé et doux. Vendredi, le temps sera bien ensoleillé toute la journée et il fera